À 5h30 en temps universel, 6h30 à Kinshasa. À l'actualité africaine, bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
L'exécutif congolais sommé par les sinistrés de rendre des comptes.
Au moins 30 personnes sont mortes à Kinshasa après les inondations du week-end. Ceux qui ont tout perdu se comptent par milliers. Beaucoup sont hébergés au stade Tata Raphaël où Félix Tshisekedi s'est rendu hier. Reportage dès le début de cette édition. En Tunisie, des rassemblements sans précédent depuis des mois. Les étudiants ont manifesté contre la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. À la dernière ligne droite d'une campagne sans combat au Gabon, l'élection présidentielle du 12 avril approche à grands pas. Le seul Brice Clotaire Olingi Nguema semble avoir survolé la compétition. Ce matin, nous donnons la parole à l'un des 7 autres candidats. Et puis, au Tchad, la fin de la crise judiciaire passera par une réforme de la Cour suprême. Après 2 semaines de grève, c'est le message qu'a porté une délégation d'avocats au ministre de la Justice. L'heure est au constat des dégâts à Kinshasa. Et les dégâts, ils sont partout dans la capitale congolaise. Ce week-end, l'eau a rapidement envahi les rues de plusieurs quartiers populaires, engloutissant voitures et maisons. Le bilan humain est lui extrêmement lourd, au moins 30 morts selon les derniers décomptes, toujours provisoires. Et là où l'eau est montée le plus vite, ceux qui ont échappé à la mort ont tout perdu. Des sinistrés qui ont été abrités dans des hébergements d'urgence. Ils sont près de 600 à avoir passé la nuit sur un matelas posé à même le sol au stade Tata Raphaël au cœur de Kinshasa. Reportage de Pauline Azidi.
Nous sommes venus ici par l'appel du gouvernement. On nous a appelés, on nous a dit de venir ici pour qu'on se réfugie vu qu'il y avait inondation là-bas dans nos quartiers.
Devant le gymnase, Chared et un petit groupe de sinistrés attendent d'être enregistrés. Ils ont les regards marqués par la fatigue et l'angoisse de ces derniers jours.
On n'a pas du tout dormi vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Il y a des moustiques, il y a des insectes, il y a des serpents qui sortent dans l'eau. Il n'y a même pas moyen de dormir. Tu vois, dormir au...
Grâce est arrivée il y a déjà plusieurs heures, mais elle n'a pas encore pu se reposer. Elle attend d'obtenir un matelas.
On nous a donné seulement à manger et à boire. On nous a dit qu'il y aura d'autres matelas. Donc nous sommes en train de patienter. Malgré tout, j'ai mal au dos, je ne me sens pas vraiment bien.
Gladine a pu s'installer avec ses enfants dans un coin de la salle, mais elle reste très marquée par la montée subite des eaux.
On était là à la maison subitement. On a vu de l'eau qui venait avec pression. Donc ça a entré dans des maisons, donc ça détruit. Et puis il y a des gens qui ont perdu le mari, qui ont perdu des femmes. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. On est en train de chercher, donc on est éparpillés. Papa à côté, maman à côté, les enfants à côté.
Sans maison, sans affaires et sans argent, les sinistrés attendent des solutions de relogement de la part du gouvernement. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
À Kinshasa, où Félix Tshisekedi a essuyé hier la colère des sinistrés. En visite justement au stade Tata Raphaël, le président congolais a été confronté par des habitants de la capitale à l'arrêt de divers projets de travaux sur la voirie. Alors qu'environ 5000 familles sont impactées par les inondations, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, reconnaît qu'il y a beaucoup à faire.
La première des urgences, c'est s'occuper des sinistrés. Et puis maintenant que l'eau est en train de baisser, il va nous falloir aussi évaluer les dégâts. Et puis à moyen terme, si je peux dire, il va falloir arriver à des décisions fermes sur non seulement la réinstallation de toutes ces familles, et puis la gestion des causes profondes de l'impact de ces pluies sur l'urbanisme. Je crois qu'il faut arriver à considérer que le bilan en termes de décès va changer.
Jacquemin Chabani. Un moment de recueillement teinté cette année de politique. Le contexte de grave tension régionale a été évoqué hier alors que le Rwanda lançait les 31e commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il y a 31 ans, entre avril et juin, des massacres étaient commis partout dans le pays visant la communauté Tutsi et des Hutus modérés. Dans son discours, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que les pays sanctionnant Kigali pouvaient aller au diable. Le Rwanda est en effet ciblé depuis plusieurs semaines pour son implication dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Des drapeaux palestiniens brandis dans les rues de Tunis. Des milliers d'étudiants ont défilé dans la capitale tunisienne et d'autres villes du pays. Une grève générale décrétée par les syndicats étudiants pour protester contre la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Et si la mobilisation pour soutenir les Gazaouis est toujours présente dans le pays à travers des rassemblements hebdomadaires, il n'y avait pas eu de pareilles manifestations depuis des mois. Lilia Bless était dans le cortège à Tunis pour RFI.
Après plusieurs manifestations durant le week-end, la marche plus massive des étudiants en grève ce lundi a redonné de l'élan à la mobilisation pour la cause palestinienne en Tunisie, selon Myriam, 24 ans.
Ces derniers jours, il y a enfin eu un regain de mobilisation partout dans le monde et aussi dans le monde arabe, vu ce qu'il s'est passé. Le génocide et les derniers bombardements, surtout, c'est impossible de ne pas réagir. Donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague de manifestations et d'appels au boycott parce que malheureusement, nous sommes tous habités du sentiment d'impuissance face à ce qu'il se passe. Donc notre seule option, c'est la rue.
Cette étudiante en médecine a revêtu sa blouse blanche pour exprimer son soutien à tous les médecins qui tentent encore de sauver des vies sur place. Riem Nafati, 19 ans, étudiante en classe préparatoire littéraire, est venue renforcer les rangs avec toute sa classe.
Bien sûr, Ramzi.
Cette manifestation est très symbolique parce qu'elle émane des jeunesses et il faut continuer à se mobiliser, surtout pour que les gens n'oublient pas ce qu'il se passe sous nos yeux et l'importance de la cause palestinienne.
Les syndicats étudiants, à l'origine de la manifestation, ont également appelé à intensifier les mouvements de protestation et poursuivre le boycott de tous les produits et marques en relation avec les entreprises israéliennes. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI 6h36 à Cotonou au Bénin où le procureur n'a pas pu rendre ses réquisitions et les avocats n'ont pas pu plaider ce lundi dans le procès du cyberactiviste Steve Amoussou, accusé d'être frère Ounvi, critique sévère de Patrice Talon sur les réseaux sociaux. Ce lundi, l'affaire a été appelée après seulement l'heure de 17h. Un débat d'environ une heure a eu lieu et le président a finalement renvoyé le réquisitoire et les plaidoiries au 14 avril. Steve Amoussou est poursuivi pour provocation à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique. Leur visa a tout simplement été annulé. Les ressortissants sud-soudanais ne sont plus les bienvenus aux États-Unis. La mesure est inédite et justifiée par Washington qui accuse Juba de ne pas accepter le retour de ses citoyens expulsés. Alors dès hier, certains ont reçu un email laconique leur intimant de ne pas essayer de se rendre aux États-Unis. C'est notamment le cas d'une ressortissante sud-soudanaise avec qui Florence Mieto a échangé.
Ils ont envoyé un email au langage rude, pas du tout aimable.
Voilà comment Florence, fonctionnaire sud-soudanaise de 27 ans, habituée des séjours aux États-Unis, a appris que son visa étudiant, encore valide un an, était révoqué. Elle avait prévu de se rendre à Washington très prochainement pour entamer un master.
Je ne vais donc pas partir étudier. Cela me fait vraiment de la peine parce que pour moi, mais aussi pour les très nombreux jeunes sud-soudanais dont les études et donc le futur vont pâtir de cette décision. C'est vraiment très regrettable.
Un homme identifié par Washington comme un sud-soudanais du nom de Nimeri Garang a été expulsé vers Djouba ce week-end. Mais à son arrivée, il a déclaré face aux autorités sud-soudanaises s'appeler Makula Kintu et être congolais. Il a donc été refoulé. Apu Kayuel Mayen, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement accueille tous ses citoyens, qu'ils reviennent de façon volontaire ou qu'ils soient expulsés. Le gouvernement regrette profondément qu'en dépit de cet historique de coopération et de partenariat, le Soudan du Sud fait maintenant face à une vaste révocation des visas sur la base d'un incident isolé.
Côté américain, le ton reste ferme. Le secrétariat d'État explique que l'ambassade sud-soudanaise à Washington a certifié la nationalité de cet homme. Il sera prochainement à nouveau expulsé. Les États-Unis intiment à Djouba de ne pas aggraver davantage la situation. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Ils n'ont plus que 4 jours pour convaincre. Le Gabon entre dans sa dernière ligne droite en vue de la présidentielle de samedi. D'ici là, RFI donne la parole à l'ensemble des 8 candidats en lice. Aujourd'hui, Thierry Yvon Michel Ngoma a 46 ans. Il retente sa chance après une première candidature ratée lors du scrutin annulé de 2023. Il a choisi cette fois de faire campagne sur un credo résolument souverainiste et prône notamment la sortie du franc CFA.
La France a montré ses limites, mais qui, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a implanté je dirais une attitude de désinvolture qui, au jour d'aujourd'hui, le Gabonais ne s'y retrouve plus. Et la France, au lieu de, d'écouter la voix, le porte-flambeau du Gabonais le plus démuni, elle ne fait que s'enorgueillir en pillant par des situations conventionnelles. Pourquoi le Gabon reste plongé toujours sous la bannière du franc CFA? C'est un fonds de colonie française. Nous sommes un État souverain, au même titre que la France. Alors moi, j'estime que dès aujourd'hui, je prendrai des initiatives assez fortes, déjà pour sortir le Gabon du franc CFA, surtout de mettre à plat. Moi, je pense que mes adversaires ne sont pas outillés, ne sont pas à la pointe de la vision d'un véritable État libre.
Des propos recueillis par François Mazet. Et pour en savoir plus sur ce scrutin présidentiel au Gabon, l'intégralité des interviews des candidats avec leurs motivations et leurs programmes seront à retrouver dans un article spécifique sur notre site internet RFI.fr. Réformer la Cour suprême tchadienne, voilà les revendications d'une délégation d'avocats qu'a rencontré hier après-midi le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. Après 2 semaines de grève, ces hommes de loi accusent toujours la plus haute juridiction du pays d'être devenue une zone de non-droit. Les décisions y seraient rendues, je cite, en dehors de toute règle de procédure et à la tête du client. Esdras Ndikoumana revient pour nous sur l'origine de cette crise judiciaire.
La goutte qui a fait déborder le vase selon le bâtonnier d'Ndjamena, c'est l'affaire de la sextape qui avait défrayé la chronique dans la ville d'Abéché il y a une année. 4 parmi les prévenus avaient ensuite été condamnés de 1 à 3 ans de prison en première instance et en appel. Aucune des parties n'ayant été satisfaite par l'issue de ce procès, toutes vont alors se pourvoir en cassation. Mais quelle ne fut la surprise des avocats des parties civiles de constater que la Cour suprême avait tranché l'affaire avant même d'avoir le dossier entre ses mains, assure Maître Gérandi Laguerre.
Ce qui devrait se faire, c'est que la Cour suprême attend que la Cour d'appel lui transfère le dossier. Mais dans le cas d'espèce, non seulement le dossier est encore à la Cour d'appel, même jusqu'à aujourd'hui, mais il y a déjà une décision de la Cour suprême qui est rendue. En violation totale des dispositions qui régissent le fonctionnement même de la Cour suprême, comment une juridiction peut rendre une décision? Sur la base de quoi?
Et les avocats n'étaient pas encore au bout de toute leur surprise. Toujours selon le bâtonnier.
À l'Assemblée générale, beaucoup de cas ont été révélés. On a demandé aux avocats de nous envoyer tous les cas qu'ils ont subis ou leurs clients ont subis. On a recensé plus de 20 cas, du moins pour ce qu'on a reçu. C'est des situations incroyables.
Après 2 semaines de grève, une délégation d'avocats, une séance de travail avec le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême du Tchad, qui leur a fait des propositions de réforme, notamment sur le fonctionnement de la plus haute juridiction du pays. Nous allons les soumettre à l'Assemblée générale qui va décider de la suite à donner à notre mouvement, a annoncé Maître Gérandi Laguerre.
Il avait fait le buzz après avoir lancé des billets de banque pendant son mariage. Si c'est souvent le point d'orgue des noces au Nigeria, la pratique est désormais interdite et ce depuis 2007 car considérée comme une insulte à la monnaie nationale. Un tribunal fédéral de Kano a donc condamné à 6 mois de prison ferme Abdoulaye Moussa Ousseini, connu sous le nom d'Amouskap. Il est connu donc auprès de ses 153 000 abonnés sur Instagram. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la suite des RFI Matin avec vous, Clotilde Dumais.
Et merci beaucoup Simon Bourtambour. On passe au sport.